Slate Podcast.
Ce podcast vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.
Il y a quelques semaines est sorti un film, La fille inconnue. C'est un film de Jean-Pierre et Luc Dardenne qui raconte l'histoire d'un médecin de la région de Liège en Belgique. Elle s'appelle Jenny, jouée par Adèle Haenel. Un soir, quelqu'un sonne à la porte du cabinet de Jenny, mais l'heure de fermeture est déjà passée et elle n'ouvre pas. L'inconnue qui a sonné, une jeune femme, va mourir quelques minutes plus tard. Le lendemain, la culpabilité s'insinue en Jenny. Elle se met à chercher l'agresseur, le meurtrier, inlassablement. Elle est soudain rongée par un mal, elle qui les soigne d'habitude. Elle devient la malade. C'est un renversement de l'ordre naturel des choses. Dans un monde normal, chacun est à sa place, les médecins soignent, les malades souffrent. Mais quelquefois, le monde se renverse. Le 13 novembre, c'était ça, un renversement du monde. Les terrasses étaient soudain dangereuses, les salles de concert aussi. Paris devenait un terrain de guerre. Et tous ces gens censés soigner, le monde ou les êtres, ces pompiers, ces policiers, ces médecins, ils ont souffert aussi. Des psys se sont mis à se confier à leurs patients. Quelques mois après les attentats, Caroline Gillet est entrée dans le cabinet de son psy et c'est lui qui s'est mis à raconter. Alors il y est retourné quelques temps plus tard avec un micro pour lui proposer d'enregistrer son histoire et cette inversion des mondes.
C'est un point de vue au sens géométrique que j'ai de temps en temps, parce que parfois, quand j'ai pas de patient, je bouquine ici. Mais en général, je suis vautré sur mon canapé. C'est pas un divan, je ne suis pas psychanalyste. Là, je suis assis et je vois ce que mes patients voient, sauf que je ne suis pas en face, parce que je ne suis pas dédoublé. Donc, je vois mon siège vide, et effectivement, c'est un petit peu dérangeant, mais c'est pas très grave. L'anxiété, c'est notre gagne-pain, c'est un de nos gagne-pains. C'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, extrêmement impressionnante et parfois très handicapante, et paradoxalement très facile à soigner. C'est un homme jeune d'une trentaine d'années, je n'en dirai pas beaucoup plus sur lui bien sûr, mais un homme jeune d'une trentaine d'années qui était agoraphobe depuis pas très longtemps, depuis 4-5 ans, et qui auparavant, dans sa vingtaine, dans ses études, adorait aller boire des verres en terrasse avec ses potes. Puis petit à petit, l'agoraphobie l'empêchait de faire plein de choses, l'empêchait d'aller loin de chez lui, puis d'aller même pas très loin de chez lui, puis au bout d'un moment, même quasiment de sortir de chez lui. Il limitait sa sortie au strict minimum, qui était son travail. Mais voilà, sortir, boire un verre, sortir pour rien, sortir pour le plaisir, c'était juste devenu impossible. Et ça le faisait souffrir. Et donc, on avait passé, je dirais, une petite dizaine de séances là-dessus. Ça avait marché. C'est pas que je sois le meilleur psy de Paris, mais c'est un trouble qui se soigne assez facilement. Donc, j'encourage ceux qui en souffrent à se faire soigner. Ça restait un petit peu compliqué pour lui de prendre le RER. La guérison, c'est pas la disparition totale des symptômes, c'est l'atténuation des symptômes au point que ça devient supportable. Ça peut rester une gêne. J'ai pas l'ambition de totalement effacer une ardoise. Je dis souvent en passant qu'il va rester une cicatrice, hein, qui va parfois les démanger. Donc on passera d'une douleur intense à un truc qui parfois démange. Chaque jour, c'était un peu moins pénible. Il pouvait faire un peu plus de RER. Il pouvait aller faire deux stations, trois stations. Et puis un jour, il a réussi à atteindre le Châtelet. Donc là, il était vraiment content d'avoir atteint ce but. Et une fois au Châtelet, bah, il pouvait se débrouiller dans Paris. Là, il était beaucoup moins agoraphobe. Donc non, il n'y a pas eu un moment où c'était fini. C'était un continuum assez rapide. Et à un moment, c'était voilà, il restait une gêne, mais c'était largement tolérable. Pour nous psy, c'est une grande joie de voir les patients retrouver leur liberté. Et Ben, le drame, c'est que ce patient a retrouvé sa liberté, j'ai envie de dire, même si c'est totalement idiot, j'ai envie de dire, qu'il l'a retrouvé un petit peu trop tôt, parce que un des premiers soirs où il est sorti boire un verre, c'était le 13 novembre de l'année dernière, et il a été tué par une des balles tirées par un des terroristes. Voilà. Il est arrivé pour une agoraphobie qui avait évolué assez rapidement. On n'a jamais trouvé le facteur déclenchant, mais souvent il n'y en a pas. Il avait fini ses études, il avait trouvé un boulot, il bossait bien. C'était quelqu'un qui était parti pour bien réussir sa carrière. Quelqu'un d'assez anxieux. Et il venait pas de Paris, je pense que ça joue aussi. La vie à Paris, les transports à Paris lui étaient particulièrement pénibles. Il n'aimait pas le métro, il avait peur d'avoir des attaques de panique alors qu'il n'en avait jamais eu. Et ben, il limitait ses trajets. Il faisait tout ce qu'il pouvait faire en bus ou à Vélib ou même à pied. C'était un garçon jeune, assez sportif. C'était un beau mec, hein. C'est triste d'en parler comme ça, qui avait tout pour lui. Et sauf son handicap. Et comme il habitait en banlieue, il bossait en banlieue, mais voilà, aller boire des verres, c'était à Paris, c'était à République, parce que c'était le quartier où il avait ses potes. C'était du transport, et ben, il a commencé à limiter ça, et après il a limité plein d'autres choses, et les seuls trajets qu'il supportait, c'était les trajets de son domicile à son travail, et à sa salle de sport, qui était aussi dans le même quartier. Il le tournait en rond, il faisait chez lui des choses qui ne l'intéressaient pas, genre regarder la télé, genre rien. Il demandait à ses amis de venir, mais ses amis ne voulaient pas venir en banlieue. Voilà, donc c'était effectivement l'enfer. Et son humeur commençait à se dégrader. Donc, qui dit trouble de l'humeur, dit trouble du sommeil, dit irritabilité, dit trouble de la libido. Il s'est énervé pour mieux pour un an. Ceci aggrave cela. Donc, ça partait dans une très mauvaise spirale. Et commençait à avoir des symptômes dépressifs qui l'ont amené à consulter, en fait, même pas qui ont amené sa copine à s'énerver très très fort et à lui dire tu consultes ou vraiment ça va pas aller parce que ça devenait invivable. J'ai connu sa copine, indirectement il me parlait de sa copine, il me parlait des problèmes que posait son agoraphobie dans sa vie de couple. Notre relation thérapeutique a commencé par sa copine et c'est fini avec sa copine puisque c'est elle que j'ai vue après les attentats. Novembre, j'étais chez des amis rive gauche. Nous dînions, c'était sympa. J'avais éteint mon téléphone parce que j'aime pas être dérangé pendant les dîners. Et puis j'ai rallumé mon téléphone pour un truc tout con, c'est qu'on s'était engueulé sur l'âge de je sais plus quelle actrice extrêmement vieillissante et on se demandait si elle avait 85 ou 90 ans. Et on a allumé les téléphones pour regarder sur Wikipédia. En fait, la vérité, c'est qu'on avait tous éteint nos téléphones parce que la personne qui dînait est une personne d'une autre génération qui ne supporte pas les téléphones portables à table. Donc, on a tous interdiction d'avoir nos téléphones. Mais là, on s'est dit, il faut quand même qu'on sache quel âge a machine. Je ne sais plus de qui il s'agissait. Donc, on a tous pris ça comme prétexte pour allumer nos téléphones. Et là, on avait tous 50, 60 SMS, mails, etc. T'es où, t'es où, t'es où. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose. Quoi. Et on allumait la télé, puis la soirée s'est passée, c'est fini comme pour beaucoup de personnes. Moi, en plus, étant médecin, étant à l'hôpital, j'ai appelé mon hôpital pour me faire connaître comme étant disponible. Sauf que c'était juste impossible de rejoindre l'hôpital parce qu'on ne pouvait pas circuler. Donc j'ai un souvenir extrêmement pénible de cette soirée où je me sentais impossible d'exercer mon métier, d'aller là où on avait besoin de moi. Bon, après, j'ai largement pu compenser parce que les semaines d'après, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. On a dormi sur place. Le matin, on est rentré. Mon cabinet est vraiment juste à côté de bar où ça s'est passé. Donc, il y avait de la sciure par terre. C'était extrêmement, extrêmement pénible. Et j'ai eu ce même samedi, quand même, quelques patients qui n'ont pas décommandé, qui sont venus. Dont des patients qui étaient des patients que je suivais pour aux troubles anxieux, des patients qui ont peur, pareil, agoraphobie ou autre. Et ben, je vous laisse imaginer en quel état ils étaient de venir dans le quartier qui était bouclé par la police, qui était envahi de camions de télévision. Ça ressemblait vraiment à un décor de série américaine. Et voilà, j'avais mes patients qui franchissaient les cordons de police et qui allaient chez leur psy pour leur parler de leur anxiété le 14 novembre au matin. Elle avait pris son agenda, elle savait que son compagnon suivait une thérapie, je le voyais encore, il était guéri, mais je le voyais encore pour d'autres petites choses. Et elle appelait pour décommander. Et oui, en parlant, j'ai encore un petit peu un nœud dans la gorge, parce que c'était vraiment un choc. Hein. Je suis assis là où il était assis. Et j'avais cette femme au téléphone, remarquablement calme, sereine, qui m'annonce ça. J'ai honte de dire, je crois que j'étais presque plus mal qu'elle quand elle me l'a annoncé. Je pense que je ne l'ai pas montré, mais voilà, c'était extrêmement violent. Je lui ai proposé de l'aide, parce que c'est tout ce que je sais faire, hein, mon côté Saint-Bernard. Je lui ai proposé de l'aide en lui disant que je ne pourrais pas la suivre, mais que j'étais à sa disposition. Elle aurait voulu que je la suive, ça m'a paru très inapproprié. En revanche, j'ai voulu la voir 2-3 fois, le temps de l'orienter vers quelqu'un qui pouvait la recevoir. C'était un peu le chaos dans ma tête, c'était le chaos dans mon cœur. J'ai pas peur d'utiliser ce mot-là. C'était le chaos dans mes tripes. Voilà, c'était le bordel, quoi. Je savais pas trop ce que j'étais. J'étais médecin, j'étais triste. Mais voilà, j'ai revu cette soirée. Je l'ai imaginé, lui avec ses potes, sur cette terrasse que je connais. Je me suis mis dans ses baskets. Voilà, c'est ça qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je me suis enfermé dans les chiottes. Hein, j'étais à l'hôpital, donc je suis pas blindé. Non, la force de mes émotions m'a pas surpris. Je connais mes émotions. Je peux pleurer au cinéma aussi. Hein, donc voilà. On n'a pas toujours les mêmes émotions pour tous les mêmes patients. Je dis toujours en début de thérapie qu'une thérapie c'est une relation. Donc les patients, je leur dis qu'une thérapie, c'est une relation, et qu'une thérapie courte, c'est une relation courte. Avec des droits des deux côtés, des devoirs des deux côtés, c'est très dissymétrique, il y a beaucoup plus de droits du côté du patient, beaucoup plus de devoirs du côté du psychiatre. Mais voilà, c'est quand même une vraie relation. Ce patient-là, je réécris l'histoire, sachant comment elle s'est terminée, donc forcément, il occupe dans mon esprit, dans mes tripes, hein, parce que c'est une vraie relation, il occupe une place à part. Parce que c'était un deuil, parce que c'était une vraie tristesse. On sait tous qu'une vie qui est fauchée comme ça, dans ces âges-là, c'est un gâchis. Quand on met un visage dessus, quand on met quelque chose de chimique, hein, il venait ici, il avait son odeur, il avait sa façon d'être, il avait sa chimie, il avait tout ça. Quand c'est cette réalité physique, voilà, ça devient concret. Et même si c'est pas affectif, comme quand on perd un proche, c'est encore pire. Là, il n'y a pas cette dimension affective, il y a il y a une synapse en plus. Hein. C'est 130 morts, 130 jeunes fauchés. Bah oui, mais pour moi, ce n'est pas 130, c'est 129 plus 1. Il y en a vraiment un que. Voilà. Moins maintenant, parce que la place de la République est devenue autre chose, mais à une époque, il y avait les prénoms des 130 personnes qui étaient scotchées autour de la statue. Je savais exactement où était le sien. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pas un instant, je me suis dit que je l'avais guéri trop tôt, que c'est de ma faute, etc. J'ai vraiment pas du tout ce genre de pensée. Oui, j'ai conçu ce raisonnement, j'ai vu qu'on pouvait avoir ce raisonnement, mais je l'ai réfuté tout de suite. Ça m'a pas effleuré. Je me suis dit, voilà, on peut effectivement dire que je l'ai soigné trop tôt et que c'est parce que j'ai soigné qu'il est mort. Factuellement, c'est vrai. Après, j'en fais quoi? C'est ce genre d'information qui ne sert absolument à rien. C'est comme si... Ouais, je ne sais pas, c'est un enchaînement de choses, de liens de cause à effet, mais sans intentionnalité. On peut très bien dire, voilà, parce que je suis parti à telle heure de chez moi, que ça se sont passés, et ben peut-être que ça a indirectement tué quelqu'un. Non, oui, c'est peut-être vrai, mais c'est quelque chose dont on ne peut rien faire, donc je n'en fais rien. Donc voilà, je me suis raconté cette histoire parce que c'est tentant de se la raconter, mais elle ne m'a pas du tout affecté de cette façon. Par exemple, un patient qui suicide, on se dit merde, j'ai pas vu venir, j'aurais pu voir venir, j'ai pas vu venir. On prend les notes, on prend tout ce qu'on. Voilà, comme on est un peu parano, hein, on note tout pour pouvoir, en cas de pépin, montrer qu'on avait suivi les trucs. On se dit, ok, bon, j'ai marqué pas de risque suicidaire avec tel et tel et tel argument. Est-ce que vraiment j'ai gratté à fond? Et bah, fatalement, non, parce que la preuve, c'est que le patient s'est suicidé. Donc là, on éprouve un sentiment de culpabilité, en tout cas au moins de grand doute. Et puis, on finit par la conclusion que de toute façon, quand on est médecin, on est plus enclin à avoir des clients qui meurent que quand on est boulanger. Après, il y a des très très belles expériences. Là, je vous parle d'un patient qui est décédé. On peut dire que la chronologie m'a donné un rôle dans ce décès. Il y a aussi des naissances dans lesquelles j'ai eu un rôle. Donc, c'est des moments, c'est merveilleux, quoi. Je sais qu'il y a des enfants qui sont nés et qui seraient peut-être pas nés sans mon intervention. Dit qu'on a aussi nos deuils. Là, je fais l'autodévoilement, mais j'ai une histoire qui est assez jolie, qui en plus c'est arrivé il y a un jour près, il y a 2 ans, presque jour pour jour. C'était le jour de la mort de mon père. C'est un décès attendu, hein. Ça s'est fait rapidement, ça durait 3 mois. C'est un homme que j'aime énormément, et 3 mois entre l'annonce de sa maladie et son décès, ont été 3 mois intenses, qu'on s'est beaucoup rapprochés, on s'est dit plein de choses, et c'était vraiment très chouette. Et bon, la fin était quasiment programmée. C'est arrivé un 12 mai. Le 12 mai au matin, j'appelle à l'hôpital où il était, et on me dit que là, vraiment, ça va très pas bien. Donc je vais à Rouen, parce que mon père habitait à Rouen. Il était hospitalisé à Rouen, je vais à Rouen, j'arrive là-bas. Bon, il était dans le coma, je le savais. Et voilà, et donc j'assiste à ces dernières heures. Et j'étais parti sans mon ordinateur, sans mes agendas, sans rien. Je savais juste que j'avais 2 patients. Je ne savais pas lesquels. Et bien sûr, je n'avais pas leurs coordonnées. Donc il fallait que je rentre. Que je rentre et que je vois mes patients. Donc je rentre et je vois mes patients. Et là, je ne savais pas à quoi je ressemblais. Je ne savais pas du tout comment j'étais. Et j'étais transparent, je leur ai dit, écoutez, je vous ai dit, hein, quand on a commencé notre thérapie, qu'une thérapie c'est une relation entre 2 êtres humains, ben là vous avez un être humain qui est à un moment particulier de sa vie, et je leur ai dit, voilà, j'ai perdu mon père aujourd'hui, et j'ai pas pu vous décommander parce que j'ai pas vos coordonnées, donc voilà, vous êtes là, je suis là. Les deux ont été vraiment plus que chouettes, ils m'ont tous les deux proposé d'arrêter tout de suite et de me laisser, je leur ai dit, ben non, écoutez, on est là, puis on verra comment ça va se passer, quoi. Et puis ça s'est passé. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que avec les deux, j'étais dans une espèce de désinhibition totale, où je leur ai dit des choses que je pense que j'aurais pas été capable de dire autrement. Ma phrase n'est pas très française, mais tant pis. Je pense que j'aurais été absolument incapable de leur balancer ça un jour normal. Et là, je me sentais tous les droits. Du coup, c'était très chouette. Et j'ai un de ces patients qui est venu à la séance suivante avec une lettre. Elle m'a dit « Docteur, j'ai des choses à vous dire, mais je n'arrive pas à vous les dire, donc je vous les ai écrites. » Là, je me suis dit « Bon, après la dernière séance, où j'ai franchement dû être très déconnant, je pense qu'elle me dit que c'est fini, qu'elle va me dire « Je suis venu te dire que je m'en vais. » Et en fait, la lettre, je l'ai là. Si vous voulez, je peux vous la lire. Elle n'est pas très longue.
Monsieur, je vous écris cette lettre et pourtant vous ne la lirez jamais. Vous ne la lirez jamais parce qu'on ne se connaît pas et on ne se rencontrera jamais. Pourtant, je ressens le besoin de l'écrire parce que j'ai vécu une semaine importante et quelque part vous aussi. Vous avez quitté notre enveloppe terrestre et vous ne faites plus partie des vivants de cette terre. Et parce que vous êtes mort, j'ai vécu un moment particulier comme vous. Votre fils m'accompagne pendant quelques temps pour que je sois mieux avec moi, avec les autres, pour que je m'accepte. Parce qu'il n'a pas pu décaler le rendez-vous que nous avions, parce qu'il a souhaité malgré votre décès me recevoir, nous avons eu une séance particulière, émouvante, sensible, touchante, pleine de vie, pleine d'espoir, pleine d'empathie, pleine de générosité. Mon fils aîné qui travaille à l'hôpital dit que pour lui, quand il assiste au départ terrestre d'une personne, il n'y a pas plus doux message que de voir un membre de la famille porteur d'une vie qui arrive. J'ai eu l'impression, en ce début de semaine, de vivre quelque chose de cet ordre-là. Je voulais vous l'écrire.
Donc c'était un beau cadeau. Et j'ai eu des patients qui ont vu, parce qu'on avait mis un petit faire-part dans le monde, des patients qui ont vu donc ça dans le monde, qui m'ont adressé des messages de condoléances. Et un qui m'a beaucoup touché, c'est un patient qui m'a dit « Je réalise que mon psy est aussi un fils. » Ça m'a vraiment chamboulé. On est médecin pour pas être malade. Donc on est psy pour pas être triste. Ça, c'est une chose. Ou pour pas être fou. On est payé pour donner de l'empathie. Une image que j'ai toujours en tête, c'est le comédien qui va monter sur scène et faire rire sa salle, alors que soit il a une rage de dent, soit il a une crise hémorroïdaire, soit sa copine l'a plaqué. Et voilà, il faut faire le job. Si on monte sur scène, il faut le faire. Ça ne nous interdit pas non plus de dire qu'on est vulnérable. C'est pour ça que je suis assez à l'aise pour vous le dire. Vous dire que j'ai été ébranlé par cet épisode. J'étais aussi à l'aise pour dire à mes patients du 12 mai 2014 que je venais de voir mon père mourir et qu'on allait quand même faire le job ensemble. Et que c'était triste, mais que voilà, ça ne m'empêchait pas de travailler. Je suis assez à l'aise pour ça. Je pense qu'il faut. Pour réparer les vivants, il faut être vivant. Il faut avoir envie de réparer les vivants. Voilà, il y a les morts avec les morts et les vivants avec les vivants. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire ? J'ai éprouvé le besoin de la raconter d'un point de vue thérapeutique, dans ce qu'on se disait, vous et moi, dans ce cabinet. Alors pourquoi je l'ai raconté ? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est ce que ça m'a fait de la raconter. Bon, là, je vais défoncer une porte ouverte. C'est très libérateur, c'est très réconfortant. Ça me permet aussi de valider mon absence de culpabilité, de me dire que voilà, je ne suis pas un monstre froid, de pouvoir avoir traversé ça sans me sentir coupable. Ça m'a aussi permis de me justifier d'un truc que j'ai toujours un peu de mal à accepter chez moi, une certaine émotionnalité. Voilà, mes amis étaient très, très surpris de voir, après le 13 novembre, comment j'avais réagi à ces attentats, un peu plus qu'eux. Tout le monde a réagi de façon très émotionnelle, mais moi, plus que d'autres. Alors, il y a ma nature, je suis quelqu'un de très émotif, mais après, j'avais ça aussi. Là, je suis en train de concevoir maintenant, en le disant, peut-être que ça m'a permis de... Peut-être que j'ai utilisé ça comme un alibi pour mon côté émotif, en me disant que moi, j'avais aussi le droit d'être très, très, très ému, un peu plus que les autres, par ce qui s'était passé. Alors, comme j'avais proposé de vous raconter donc en public ce que vous avez livré dans l'intimité du cabinet, bien sûr, ça m'a posé la question de la confidentialité. Donc je me suis rapproché de la compagne du patient qui était étonnée, qui était assez émue, mais positivement émue du fait que j'ai eu envie de livrer ça. Pour elle, ça me dit que ça permet aussi de rendre hommage à son compagnon d'une certaine façon. Elle a aussi parlé de ce projet avec la famille de son compagnon. Qui a la même réaction que je connais pas, que j'ai pas non plus vocation à connaître, mais qui connaît l'histoire, qui sait que leur fils était en thérapie et qui trouve aussi très très chouette d'avoir cette occasion d'écouter un jour quelque chose sur lui, sur une étape, sur un aspect de sa vie auquel ils n'avaient pas accès. Mais voilà, c'est tout ça se fait en famille d'une façon assez chouette, je pense. Je pense que ce sera pour eux un moment assez important. Pour lui, je pense que ça n'aurait pas été un problème d'en parler. Même, il aurait trouvé ça plutôt marrant parce qu'il était assez capable de parler de ça avec ses proches. là-dessus, il trouverait même qu'on en fait peut-être un peu trop et qu'on pourrait dédramatiser les choses beaucoup, avec beaucoup plus de légèreté. Mais je parle pour lui, là, je sais pas, il n'est pas là pour me dire que j'ai raison ou que j'ai tort.
Était signée Caroline Gillet, avec Charles Trahan à la réalisation, Pauline Thompson à la musique, Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Transfert sur iTunes, Audible, Slate, Soundcloud, partout. Vous pouvez aussi écouter le podcast de Nadia, Les Sales Gosses, aux mêmes endroits, et venir lire nos articles sur le 13 novembre sur le site de Slate.fr. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous podcast@slate.fr. À très vite.
Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate.